à toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute de Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des chroniques de Julien de Rubempré. Julien, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous retrouver à ce micro. Vous êtes venu nous parler aujourd'hui des rapports entre le monde intellectuel et l'histoire.
Oui, et surtout, Christophe Dickès, je vais vous parler de la manière dont l'histoire aborde également la question des intellectuels. Alors, je pourrais commencer par introduire par une sorte d'anachronisme en disant que la France, c'est, selon l'expression de Pierre le Pape, si je me souviens bien, un pays de littérature, donc un pays d'intellectuels. Bon, je pense ici à Blaise Pascal, la querelle du jansénisme, à Voltaire, à Victor Hugo, qui était un intellectuel avant l'heure. Mais c'est évidemment en 1898, en plein cœur de l'affaire Dreyfus, que ce terme émerge, notamment avec Zola et la mobilisation des intellectuels. J'ai une citation de Maurice Barrès qui, dans ses cahiers, écrit, alors je vous lis, « Certains hommes sont un accident heureux pour leur pays. Ils sont l'inattendu, intervenant au milieu de toutes les nécessités sociologiques. Ils agissent, leur état de conscience individuelle balance, retarde, précipite, modifie un ensemble de faits sociaux. » Voilà. Pour moi, c'est la meilleure définition possible qu'on puisse avoir des intellectuels et surtout de la question de l'intellectuel face à l'histoire et, deuxième notion très importante, l'intellectuel qui fait l'histoire.
Alors, vous avez sélectionné trois ouvrages. Un classique, tout d'abord, qui a été édité il y a plusieurs années, mais qui est une sorte de livre incontournable pour traiter de ce sujet. Il s'agit du « Siècle des intellectuels » de Michel Vinocq, paru chez Point Seuil. Et ensuite, vous avez sélectionné « La vie intellectuelle en France », donc deux tomes, « Des lendemains de la Révolution jusqu'en 1914 » pour le premier tome et de 1914 à nos jours pour le deuxième. C'est un livre de Christophe Charles et de Laurent Jean-Pierre aux éditions du Seuil. Et le troisième ouvrage, il s'agit de « Scènes de la vie intellectuelle » d'André Perrin, chez L'Artilleur. C'est la première fois que nous retenons un ouvrage chez cet éditeur. C'est écrit par un philosophe, mais il aborde bien évidemment la question des rapports de l'histoire et de l'intellectuel.
Exactement. Alors, pour commencer, je vais vous parler des deux tomes, donc « La vie intellectuelle », donc qui commence dès le lendemain de la Révolution, c'est-à-dire en 1815 jusqu'en 1914, et ensuite de 1914 à nos jours. Donc il est bien sûr pas possible de résumer deux tomes d'une telle ampleur comme ceci. Alors, ce qui est très intéressant dans ces deux tomes, c'est donc l'émergence de la figure de l'intellectuel et surtout la manière dont, au début du premier tome, il est montré que la figure de l'intellectuel, et ici on va garder quand même quelques guillemets parce que l'expression reste anachronique telle que je l'ai montré dans mon introduction. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette imbrication entre le monde politique et aussi le monde religieux et les intellectuels. C'est-à-dire que, pour résumer, l'intellectuel est toujours dépendant d'un pouvoir. Et ce qui est très intéressant de noter au cours de ces deux tomes, c'est cette espèce d'autonomie que l'intellectuel gagne par rapport aux sphères du pouvoir tout au long du temps. Et cela est aussi indissociable des sciences humaines qui émergent et l'avènement de la sociologie, les sciences sociales, le structuralisme dans les années 60 et 70. Et ce qui est aussi intéressant dans ces deux tomes, c'est de montrer que les idées politiques, artistiques, il y a aussi plusieurs pages sur les économistes en tant qu'intellectuels, de montrer qu'il y a aussi des grands débats internationaux, de montrer que la France n'est pas... que ce débat ne concerne pas seulement la France, mais de voir leur portée au niveau mondial.
Les fameux intellectuels, donc, il ne s'agit pas d'une spécificité française.
Non, il ne s'agit bien sûr pas d'une spécificité française au sens propre du terme, même si, comme c'est d'ailleurs montré, il y a un rapport entre les écrivains et aussi les peintres d'ailleurs et les artistes, toujours au service d'une cause. On le voit très tôt dans l'histoire, et vous ne me contredirez pas sur ce point, il y avait les écrivains de cour, il y avait les peintres de cour, donc il y a toujours eu, si vous voulez, cette imbrication de l'intellectuel dans les sphères politiques, dans les sphères religieuses, et justement, cette quête d'autonomie de l'intellectuel, c'est ce qui est le plus frappant au cours de ces deux tomes. Voilà, bon, je vais quand même présenter brièvement les quatre parties de l'ouvrage, donc de 1815 à 1860, il s'agit du temps des prophéties, de 1860 à 1914, du temps des groupements, de 1914 à 1962, le temps des combats, et de 62 à nos jours, le temps des crises. Voilà. pour essayer de montrer, bon, c'était pour ma première partie, pour vous expliquer comment, au cours des siècles, l'intellectuel a gagné son autonomie.
Alors, l'autre ouvrage que vous avez souhaité utiliser, c'est l'incontournable de Michel Vinocq, donc le siècle des intellectuels. Il s'agit d'un classique, parce que vous le disiez dès le départ de cette émission, parler d'intellectuel au XIXe siècle, c'est un peu un anachronisme, c'est-à-dire que le terme apparaît précisément à un moment de l'histoire où les passions se sont déchaînées, c'est le moment de l'affaire Dreyfus.
Exactement, c'est Michel Vinocq le dit brillamment dans son introduction. C'est pour moi un très grand livre que je me suis permis de ressortir de ma bibliothèque parce que je le conseille que ce soit aux enseignants ou aux chercheurs en histoire. C'est un incontournable. Il y a aussi un dictionnaire des intellectuels qui est encore plus précieux, mais ce livre constitue à mes yeux la meilleure illustration de ce qu'est l'émergence puis l'avènement de la figure de l'intellectuel. Donc il le commence dès Dreyfus et ensuite il focalise sur trois grands noms qui sont Barrès, Gide et Sartre. Mais il embrasse bien sûr, il analyse tous les grands courants intellectuels, il analyse l'évolution de Charles Péguy, l'attrait du socialisme, puis du communisme, évidemment l'URSS, le rôle intellectuel majeur de l'Action française, la création évidemment incontournable de la NRF. Nous avons, avec André Gide, son fameux retour de l'URSS. Donc voilà, il met en scène toutes les grandes querelles intellectuelles et idéologiques pour montrer que le but premier de l'intellectuel, c'est l'engagement, au sens sartrien du terme.
Le sommet du débat, ou plutôt des débats intellectuels, c'est l'entre-deux-guerres ?
Évidemment, c'est l'entre-deux-guerres qui prend le plus de place. C'est ce qu'il appelle les années Gide. Mais la consécration, la figure incontournable des intellectuels, notamment au XXe siècle, c'est Sartre. Et la disparition de Sartre, mais là, c'est un peu plus personnel. Je pense qu'à partir de 1980 et la disparition de Sartre, on perd cette notion d'intellectuel. Mais c'est encore un autre débat. Et d'ailleurs, il conclut, Michel Vinocq, il conclut son livre en s'interrogeant sur cette notion de fin des intellectuels qui, après deux guerres mondiales, n'ont pas su enrayer le fascisme, se sont fourvoyés comme Sartre dans le communisme, dans le maoïsme, etc. Voilà.
Alors, dernier ouvrage, Scène de la vie intellectuelle d'André Perrin chez L'Artilleur. Je le disais tout à l'heure, c'est un ouvrage d'un philosophe,
exactement,
mais qui aborde la question des liens entre l'histoire et le monde intellectuel.
Exactement, et j'ai oublié de préciser que ce livre, La scène de la vie intellectuelle, est préfacé par Jean-Claude Michéa, donc qui est aussi un philosophe. Et dans sa préface, justement, il n'y va pas de main morte, il écrit « Comment expliquer qu'un si grand nombre d'intellectuels, puisque tel est leur statut officiel, puissent de nos jours accepter aussi facilement de se livrer toute honte bue à des opérations de basse police. » Alors justement, parce que ce livre montre que l'intellectuel, est-ce qu'il peut encore aujourd'hui exercer un esprit critique ? Voilà. Et donc il y a plusieurs parties. Donc la première, c'est sur l'art perdu du débat, où il montre que l'intellectuel aujourd'hui est bien souvent disqualifié en raison de, entre guillemets, la phobie. Donc, il y a une espèce, si vous voulez, de soif de l'exclusion. Et là, il analyse plusieurs phénomènes assez récents, comme l'appel au boycott des rendez-vous de l'histoire de Blois en 2014, suite à un article d'une tribune publiée dans Libération, avec notamment l'inénarrable écrivain, et là j'insiste encore une fois sur les guillemets, Édouard Louis. Et aussi la polémique qui a entouré la sortie de l'ouvrage de Sylvain Guggenheim sur Aristote au Mont-Saint-Michel, donc, qui a été taxé d'islamophobie et donc de discrédit. Voilà, donc ce que l'auteur explique à travers ce livre, qui est vraiment brillant et assez limpide, c'est, et là je le mets en rapport justement avec ma première partie, qui est sur les deux tomes de la vie intellectuelle française, qui a montré l'émergence d'un intellectuel autonome. Est-ce qu'aujourd'hui, notamment sur cette question de l'histoire, peut-on faire de l'histoire librement ? Et cette quête d'autonomie est-elle perdue en raison d'un retour d'une espèce d'ordre moral qui impose de ne plus s'intéresser à certains sujets.
Voilà. Ordre moral, mais aussi, j'allais dire, tempo médiatique, peut-être, dans la mesure où le monde médiatique réfléchit, il ne réfléchit pas, il vit dans l'émotion, et que cette émotion empêche en quelque sorte le temps de lecture, et l'intelligence est liée à la lecture, à la recherche, à l'approfondissement.
Vous avez raison. Et ce qui est très frappant, c'est que qu'est-ce qui a permis, notamment dans l'affaire Dreyfus, cette émergence et cet avènement des intellectuels, c'est justement les médias. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, empêche la réflexion intellectuelle ?
Ce sont les médias.
Ce sont les médias. Mmh. Voilà, c'est ça le plus frappant. L'autonomie par les intellectuels gagnée grâce aux médias, grâce à l'engagement médiatique, c'est finalement retourné contre eux. Et finalement, et là, on tient un phénomène historique assez important.
Eh bien, merci beaucoup, Julien. Personnellement, j'ai tenu donc dans cette chronique à retenir de mon côté deux ouvrages, alors qui n'ont rien à voir avec votre thème. Si vous souhaitez intervenir, bien évidemment,
bien sûr.
Julien, d'autant plus que je vais parler d'un ouvrage que vous connaissez. Le premier ouvrage, c'est John Keegan, donc « De la guerre ». Il s'agit d'un ouvrage paru chez Perrin, qui est une compilation de ses trois grandes œuvres majeures, donc Anatomie de la bataille, L'art du commandement et Histoire de la guerre. Et c'est un ouvrage qui est préfacé par Arnaud Blin, qui est un spécialiste des relations internationales et de l'histoire militaire. Mais avant de parler de John Keegan, je souhaiterais parler de Paul Christophe. Paul Christophe, c'est un peu sous forme d'hommage, parce que Paul Christophe est mort cette année. C'est un des plus grands historiens du XXe siècle, de la connaissance de l'Église catholique, de l'histoire de la papauté. J'avais été un peu déçu par son Benoît XVI, qui, de mon point de vue, avait été écrit un peu dans la précipitation, juste après la renonciation du pape. Et là, juste avant de mourir, il a écrit un ouvrage consacré à Benoît XV et la Grande Guerre. Vous savez, Benoît XV, c'est ce pape qui est élu après Saint-Pie X, donc au tout début de la guerre. La guerre a déjà commencé au mois d'août 1914, et c'est un pontificat que l'on pensera long, alors qu'il sera assez court. Il va pas durer 8 ans, si mes souvenirs sont bons, ou 9 ans, puisqu'il meurt en 1923. Alors, Benoît XV, il arrive en pleine guerre, et il est situé, il est critiqué quasi immédiatement, parce que les Allemands considèrent que c'est un pape qui est attaché aux Français, et les Français considèrent que c'est un pape qui est attaché aux Allemands. Le fameux pape Bosch, on l'a appelé également Pilate XV. Et donc Paul Christophe, c'est un peu sous forme de testament spirituel. Il revient à l'essentiel, il replace le débat sur l'essentiel en posant trois questions. La première question, c'est qu'attend-on tout simplement d'un pape dans une période de guerre ? Ensuite, il voit ce qu'on reproche à Benoît XV, et enfin, il explique pourquoi il y a tant d'invectives. Ce qu'il y a d'intéressant, je retiendrai deux idées. La première idée, c'est que bien évidemment, il met en avant, si vous voulez, on a tendance à voir l'histoire à travers uniquement ce qu'en font les politiques et l'élite des nations, l'élite des religieuses, etc. Or, tous les témoignages, en tous les cas, que Paul Christophe présente, des soldats au front, montrent que le message pacifique, je dis bien pacifique et non pas pacifiste, des catholiques, eh bien, rejoignait l'encyclique, par exemple, du pape publié en 1914. Première idée. Deuxième idée, qui prend date avec l'avenir, c'est que, au fond, on a l'impression que chez plusieurs chefs spirituels de l'une et l'autre nation, et notamment la France, c'est que ces chefs spirituels placent l'État, donc ne pas le pape, hein, mais les évêques en l'occurrence, placent l'État au-dessus du fait et de la question religieuse. Et nous sommes dans une forme de préfiguration, je dis bien préfiguration, du totalitarisme, puisque l'État va être porté au pinacle par d'abord le communisme, puis ensuite le fascisme et le national-socialisme. Donc, c'est très important parce que on a tendance à oublier et voir une sorte de le fascisme comme un ovni qui arrive à un moment d'histoire. Or, comme tout moment dans l'histoire, il a des origines. Et ces origines, c'est la Grande Guerre. Oui ?
J'avais justement une petite interrogation. Est-ce que ce livre, donc, qui s'appelle Benoît XV, explique en partie pourquoi Benoît XVI a choisi ce nom ?
Oui, parce que en fait, Benoît XVI, je n'aurai pas assez d'une émission pour vous en parler. Pour Benoît XVI, enfin pour le cardinal Ratzinger, Benoît XV, c'était vraiment le pape à la fois de la paix et le pape de l'Europe. Or, le dessein de Benoît XVI, la priorité du pontificat de Benoît XVI a été la question européenne et la déchristianisation européenne. Dans un tout autre style, donc, alors, Paul Christophe, Benoît XV et la Grande Guerre, paru aux éditions du Cerf. Le deuxième ouvrage, c'est l'ouvrage de John Keegan, donc qui est mort en 2012. Alors John Keegan, il a eu deux vies. Il a eu une vie d'abord de professeur en école militaire à Sandhurst en Angleterre, et il a côtoyé des militaires toute une partie de sa vie, et il en a fait sa spécialité d'écriture. Donc il a quitté l'enseignement pour dédier son existence à l'écriture, autant dans les journaux, puisqu'il a travaillé pour le Guardian, que pour le public à travers des ouvrages. Alors vous savez qu'en Angleterre, l'histoire militaire est très cotée. On fait beaucoup d'histoire militaire, on en fait beaucoup plus qu'en France. Ça, c'est une évidence. Et il y a trois ouvrages qui sont compilés par les éditions Perrin dans un ouvrage absolument magnifique, avec une couverture magnifique représentant un canon donc de l'époque des rois de France. Donc Anatomie de la bataille, qui est tout d'abord le livre qu'il a véritablement révélé au grand public, qui a fait son succès. Vous savez, l'histoire, parce que les études historiques étaient dominées par des professeurs marxistes après-guerre, on n'étudiait pas l'histoire dite bataille. C'était un peu péjoratif, l'histoire bataille, l'histoire politique, l'histoire des guerres, on ne s'y intéressait plus. Et bien lui, John Keegan, a réhabilité cette histoire en montrant ô combien le fait culturel et l'origine culturelle des belligérants avaient une importance dans les conflits. Donc il a en quelque sorte réconcilié une école des annales, ou en tous les cas une école qui étudiait les phénomènes culturels, la vie du soldat, etc. Il a réconcilié les nouveautés qu'apportait cette école marxiste avec l'histoire politique.
C'est lié, je suppose, à l'émergence, voilà, redécouverte de Clausewitz dans les études historiques.
Totalement, totalement. Alors, l'histoire dite bataille s'intéresse aux hommes. Et c'est le thème. Alors, le premier, c'est Anatomie de la bataille. Il met en parallèle trois batailles. Donc, il y a Waterloo, il y a Azincourt, chronologiquement, Waterloo, puis ensuite la bataille de la Somme. Après Anatomie de la bataille, c'était L'art du commandement. Donc, il prend plusieurs portraits, donc Alexandre le Grand, Wellington, Ulysse Grant et Adolf Hitler. Je cite la préface d'Arnaud Blin, qui gagne souligne combien les caractéristiques du chef de guerre sont autant attachées à ses qualités personnelles qu'à la synergie qu'il parvient à créer avec la société dont il émane et dont il se fait le symbole et défend les valeurs. Ceci est vraiment au cœur de l'œuvre de Keegan. Et enfin, dernier ouvrage, Une histoire de la guerre, qui est une histoire monumentale, qui, des origines à nos jours, montre tout simplement ce qu'est la guerre. Voilà, John Keegan, De la guerre, paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup, Julien.
Merci à vous.
Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles chroniques avec vous. Merci, très chers auditeurs. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Storia Voce.